Les opinions et les points de vue exprimés dans cette émission reviennent à ses producteurs et ne sont pas ceux de cette station, de leur filiale ou de leurs employés. Les nouveaux parents sont impatients d'entendre leurs enfants prononcer leurs premiers mots. Diront-ils « maman » ou bien « papa » ? Bien qu'ils aiment entendre ce premier mot, un autre mot va rapidement les fatiguer. Le mot « pourquoi ». Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi je dois aller à l'école ? Pourquoi dois-je faire une sieste ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Certaines questions sont faciles à répondre, mais d'autres non. Ces questions avec « pourquoi » peuvent nous lasser. Elles peuvent être futiles ou irritantes de la part d'un enfant. Mais certaines questions sont importantes et elles nécessitent des réponses. En voici une. Pourquoi observez-vous les jours saints que vous célébrez ? En voici une autre. Pourquoi cette question est-elle importante ? Dans la deuxième partie de cette série sur les jours saints bibliques, je répondrai à ces questions. J'expliquerai aussi un des événements les plus mal compris dans la Bible. Que se passa-t-il le jour de la Pentecôte ? Que signifie parler en langue ? Qu'est-ce que le don des langues précisément ? Et les chrétiens devraient-ils être impliqués dans cette pratique moderne présente dans de nombreuses dénominations protestantes ? Je répondrai à toutes ces questions et à bien d'autres dans cette émission. Ne manquez pas les réponses. Restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie d'une série de trois émissions sur les jours saints bibliques. Je vous expliquerai ce qui arriva lors du jour de la Pentecôte et ce que cela signifie, mais résumons brièvement ce qui avait déjà été traité. Pour préparer le terrain de cette série sur les jours saints trouvés dans les Écritures, M. Richard Hems avait parlé des origines des jours saints que beaucoup considèrent comme chrétiens. Pourquoi tant de prétendus chrétiens observent des jours dont il est de notoriété publique qu'ils sont ancrés dans des traditions païennes ? Pourquoi le jour soi-disant le plus sacré du calendrier chrétien est-il lié à une déesse païenne de la fertilité ? Quel rapport les lapins et les œufs ont-ils avec la résurrection du Christ ? Et comment faites-vous rentrer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi saint et le dimanche des Pâques ? Après cela, j'ai commencé cette série de 3 émissions sur les jours saints bibliques. J'ai montré qu'il existe 7 fêtes annuelles que Dieu donna à l'ancien Israël. Jésus, ses apôtres et l'Église de Dieu du 1er siècle ont également observé ces jours. Les 2 premières fêtes sont la Pâque et les jours des pains sans levain. Elles expliquent les premières étapes du plan divin de salut pour toute l'humanité. Comme je l'ai expliqué, Jésus fut crucifié pendant le jour de la Pâque. Tout comme l'ancien Israël avait été épargné par le sang d'un agneau, nous sommes épargnés par le véritable agneau pascal, Jésus-Christ, dont le sang a été versé pendant le jour de la Pâque. Cela nous est confirmé dans 1 Corinthiens 5 et au verset 7 où nous lisons « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Beaucoup de gens pensent que nous devons seulement savoir que le Christ est mort, mais la Bible ne dit pas cela. Après la Pâque en Égypte, Israël était toujours en esclavage. Il devait quitter l'Égypte pour être libre. Et de la même manière, nous devons répondre à la mort sacrificielle du Christ en quittant l'Égypte, un symbole du péché. Nous devons nous repentir, reconnaître le péché et le mettre hors de notre vie. Contrairement à la croyance populaire, le salut n'a pas lieu une fois pour toutes. C'est un processus, comme le prouve 1 Corinthiens au chapitre 1, et au verset 18. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Notez qu'ici, dans la traduction œcuménique de la Bible, ainsi que d'autres versions, il est dit « ceux qui sont en train d'être sauvés ». C'est une indication que cela prend du temps. Mais comment ce processus a-t-il lieu ? Romains chapitre 5, à partir du verset 8, nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Cela nous amène à nouveau la question comment? Comment la vie du Christ nous sauve-t-elle? La réponse se trouve dans Galates chapitre 2 et au verset 20. Lisons ensemble dans Galates 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi du Christ doit être en nous. Mais comment y arriver? Et quel rapport avec la Pentecôte, le sujet de notre émission? Comment pouvons-nous être sauvés par la vie du Christ? Réalisez-vous, mes amis, que ces questions sont essentielles et que les réponses se trouvent dans les jours saints bibliques. Elles ne se trouvent pas dans les jours habituellement considérés comme chrétiens. Pourquoi? Si vous voulez la vie éternelle, vous devez le savoir, et je répondrai à ces questions dans un instant. Mais tout d'abord, je souhaite vous parler d'une des ressources les plus importantes jamais écrites par M. Roderick Meredith. La restauration du christianisme originel est un défi au christianisme moderne. M. Meredith documente comment le christianisme du Christ, des apôtres et des disciples du 1er siècle est très différent de ce qui est présenté de nos jours comme la religion de Jésus. Je ne dirai jamais assez combien cette ressource est importante pour tous ceux qui veulent vraiment connaître la volonté divine. La restauration du christianisme originel est une lecture essentielle. Contactez-nous dès aujourd'hui par courrier ou par Internet pour en recevoir un exemplaire gratuit. Cela peut changer votre vie. Je serai de retour dans un instant pour vous montrer la signification de ce qui s'est passé à Jérusalem pendant la Pentecôte. Il s'agit de la deuxième émission de notre série sur les jours saints bibliques, voire la troisième si vous comptez l'émission de M. Richard Hems sur les jours saints généralement considérés comme chrétiens. Le jour de la Pentecôte apparaît lorsqu'Israël sortit d'Égypte. Pendant ce jour, Dieu fit une alliance avec Israël et il leur donna les 10 commandements. Une définition d'une alliance est un accord entre deux parties. Dans ce cas, il s'agissait d'un mariage. Pour Dieu, il serait un mari pour Israël et il bénirait la nation avec la prospérité, la santé et la paix. Pour Israël, la nation serait une épouse obéissante qui garderait ses commandements, notamment les 10 commandements. L'histoire montre qu'Israël échoua à remplir sa part du contrat. La nation n'avait pas foi en Dieu et Dieu divorça d'elle. La raison de l'échec d'Israël est donnée dans Deutéronome 5 au verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Oui, ils voulaient recevoir les bénédictions offertes par Dieu, mais l'obéissance n'était pas dans leur cœur. La situation est identique de nos jours. Les gens veulent que Dieu prenne soin d'eux, qu'il les sorte de tous leurs problèmes, mais ils ne veulent pas lui obéir. Lorsqu'il nous dit d'observer un jour en particulier en tant que jour de repos et de culte, nous argumentons en disant qu'un jour en vaut un autre. Et nous choisissons le jour ordonné par l'empereur romain Constantin. Lorsque Dieu nous ordonne des fêtes et des jours saints ayant une profonde signification, nous pensons que les pratiques païennes sont plus intéressantes. Nous pensons que nous savons mieux que Dieu. La solution à ce problème de cœur se trouve dans Ézéchiel chapitre 11 au verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Au lieu d'écrire les lois sur de la pierre, ces mêmes commandements seront écrits directement dans des cœurs enseignables. C'est l'essence même de la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul cita le prophète Jérémie, et il montra que le problème n'était pas la loi, mais le cœur des hommes. Hébreux 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici maintenant la nouvelle alliance. Paul la révèle au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La fête de la Pentecôte arrive 50 jours après la résurrection du Christ. Et de la même manière qu'un miracle spectaculaire eut lieu au mont Sinaï, un miracle spectaculaire eut lieu à Jérusalem pendant la première Pentecôte suivant la résurrection. Le deuxième chapitre des Actes décrit comment Dieu répandit le Saint-Esprit sur les croyants qui étaient présents et qui observaient ce jour. Dieu donna les 10 commandements à Israël sur des tablettes de pierre. Désormais, il donnera le Saint-Esprit pour écrire ces mêmes lois dans l'esprit et dans le cœur. Acte 2 est très mal compris. Prenons donc le temps de voir ce qui est vraiment écrit, et c'est également important, ce qui n'y est pas écrit. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ainsi, même après la mort, l'inhumation et la résurrection du Christ, ses disciples obéissaient à l'ordre d'observer le jour pendant lequel Dieu donna les 10 commandements depuis le mont Sinaï à l'ancien Israël. N'est-il pas intéressant qu'un événement spectaculaire eut lieu ce jour-là? Mais des millions de gens sont induits en erreur en ne lisant pas attentivement ce chapitre. Nous allons étudier en détail ce passage en peu de temps, mais je souhaite vous rappeler notre offre gratuite, la restauration du christianisme originel. Monsieur Meredith écrit dans cette brochure, « Si Jésus de Nazareth revenait aujourd'hui, reconnaîtrait-il la religion qui porte son nom ? Serait-il choqué de voir ses prétendus disciples croire à des doctrines totalement opposées à celles qu'il avait enseignées, en observant d'autres jours de culte, d'autres traditions, et plus grave encore, avoir d'autres idées sur Dieu et sur son dessein, des idées contraires à celles de Jésus et des premiers apôtres ? Jésus serait en droit de s'exclamer « Mais pourquoi ont-ils placé mon nom sur cette mascarade ?» La restauration du christianisme originel n'est pas une brochure pour des gens timorés. Si vous avez le courage d'approfondir ce sujet par vous-même, demandez un exemplaire gratuit de cet ouvrage. Je serai de retour dans un instant pour expliquer ce qui arriva pendant le jour où Dieu répandit le Saint-Esprit. La question des langues est très mal comprise à cause d'une mauvaise lecture de ce qui arriva pendant la première Pentecôte suivant la résurrection. Il n'y a aucun doute dans les Écritures que le don des langues fut donné à l'Église naissante du Nouveau Testament. Mais quel était exactement ce don? Regardons de plus près le chapitre 2 des Actes. Comme nous l'avons vu avant la pause, les disciples du Christ étaient réunis ce jour-là. Lisons à présent les versets 2 et 3 du deuxième chapitre d'Actes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Notez les différences importantes entre ce qui arriva ce jour-là et ce qui est couramment appelé le parler en langue dans certaines églises de nos jours. Premièrement, cela s'est produit rapidement et de façon inattendue. Deuxièmement, il y avait le bruit d'un vent impétueux. Troisièmement, ils étaient assis, pas agités par l'esprit. Quatrièmement, des langues de feu individuelles étaient visibles. Ces points nous conduisent dans une direction bien différente de ce que beaucoup de gens pensent de cet événement. Mais notez les différences encore plus importantes au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notez qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, mais tous parlèrent-ils en langue? En apparence, cela semble être le cas. Mais lisons le verset 7 avant de tirer une conclusion qui serait erronée. ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Les apôtres venaient de la Galilée. Et le contexte du chapitre montre que les apôtres étaient ceux qui parlaient et qui enseignaient. Il ne s'agissait pas d'un tel ou d'un tel, s'écroulant sur le sol dans un état de transe, proférant des sons complètement inintelligibles pour les autres personnes. Et cela nous amène à une autre différence significative. Les langues parlées par les apôtres étaient des langues connues. Voyez au verset 5 et 6. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et pour que cela soit bien clair, l'auteur énumère plus de 15 langues ethniques et régionales ou dialectes à partir du verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Clairement, il ne s'agissait pas de langues inconnues. Mais cela ne ressemblait en rien à ce qui peut se voir dans certaines assemblées actuelles lorsque des gens parlent en langue. De plus, un élément tout aussi important est souvent ignoré. Le message proclamé ce jour-là. Cela n'eut pas lieu dans le vide. L'expression « la maison où ils étaient assis » se réfère à l'un des portiques dans le temple. Une grande foule nota alors qu'il y avait le bruit d'un vent impétueux et beaucoup virent l'apparition des langues de feu. Ils se précipitèrent sur place et chacun entendait parler les apôtres dans sa propre langue. Il semble que le miracle était autant dans l'écoute que dans la parole. Bien qu'une seule personne parlât, des gens de toutes origines l'entendaient chacun dans leur langue natale. Beaucoup pensent que le fait de parler en langue, en état de transe, est une preuve d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce vraiment le cas? Il ne fait aucun doute que certaines personnes dans l'Église originelle parlèrent en langue, des langues connues, après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais, comme nous l'avons vu, se parler en langue est bien différent de ce qui se pratique de nos jours. De plus, il n'y a pas une seule phrase dans la Bible disant que le parler en langue est nécessaire pour le salut. Alors comment quelqu'un peut-il savoir si il ou elle a reçu le Saint-Esprit? Le message donné par l'apôtre Pierre pendant ce jour parlait de repentance. Lorsque son auditoire comprit sa complicité dans le meurtre du Messie, ces gens demandèrent « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et la réponse fut sans ambiguïté. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Se repentir signifie faire demi-tour et aller dans une autre direction. Recevoir le Saint-Esprit n'a rien à voir avec une sorte d'agitation, mais plutôt avec la repentance et l'obéissance à Dieu. Le verset que nous venons de lire montre que le baptême doit suivre la repentance. Nous devons nous détourner de notre mauvais mode de vie pour embrasser une vie d'obéissance à la loi divine. Lisez cela dans le livre des Actes, chapitre 5 et verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Contrairement à ce qui vous a peut-être été enseigné, l'obéissance est nécessaire. Un autre disciple, l'apôtre Jean, confirme cela d'une façon très simple à comprendre. 1 Jean 2, versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. La véritable signification de la Pentecôte et le plan même de Dieu sont très mal compris. Mais la brochure « La restauration du christianisme originel » peut vous aider à y voir clair dans la confusion du christianisme actuel. Contactez-nous dès aujourd'hui. Cela peut changer votre vie. Je serai de retour dans un instant pour vous présenter encore une formidable vérité révélée par la Pentecôte, une vérité dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Restez à l'écoute. Je vous ai dit avant la pause que je vous présenterai encore une formidable vérité révélée par le jour de la Pentecôte. Bien que la Pentecôte porte ce nom dans le Nouveau Testament, cette fête a deux autres noms et un troisième mot y est fortement associé. Une vérité que presque personne ne comprend se cache dans ses désignations. Elle était appelée la fête des semaines, car il fallait compter 7 semaines et une journée depuis le moment où une gerbe de céréales était agitée. Israël avait reçu l'ordre d'offrir une gerbe de céréales pendant les jours des pains sans levain, après le sabbat hebdomadaire. La récolte de printemps pouvait seulement commencer après que cette gerbe des prémices avait été présentée et acceptée par Dieu. Souvenez-vous à présent des événements après que Jésus fut ressuscité. Peu de gens font attention à ce détail crucial dans les Écritures. Nous le trouvons juste après que Jésus se révéla à Marie. Jean chapitre 20 et au verset 17. Nous lisons dans ce passage. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Tout comme la gerbe de céréales des prémices devait être présentée et acceptée par Dieu avant que la moisson physique ne commence, Jésus, le premier des premiers-nés, devait se présenter devant Dieu pour être accepté avant que la récolte spirituelle ne puisse commencer. Notez comment Paul enseigna les Corinthiens à ce sujet. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Notez qu'il y a un ordre pour les résurrections. Christ, le premier des prémices. Puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. La Pentecôte est appelée la fête de la moisson et elle est associée avec les prémices. Voyez cela dans Exode chapitre 23, versets 15 et 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Comme nous l'avons vu, l'offrande de la gerbe agitée représentait le Christ. Cette fête de la moisson arrive 50 jours plus tard et elle représente ceux d'entre nous qui appartiendront au Christ à son avènement. C'est pourquoi nous sommes appelés les prémices à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Mes amis, comprenez-vous la signification de tout cela? Il y a une moisson des prémices. Elle représentait une petite moisson agricole en Israël. Une grande moisson avait lieu plus tard dans l'année. Spirituellement parlant, tout le monde ne fait pas partie de cette petite moisson. Cependant, la volonté de Dieu est que chaque être humain, où qu'il se trouve, ait une occasion de salut. J'expliquerai ce formidable aspect de l'histoire dans la dernière émission de cette série sur les jours saints bibliques. Les 4 dernières fêtes expliquent davantage le formidable plan divin dans lequel il donne à chacun une occasion de salut. J'expliquerai cela la prochaine fois, mais avant de conclure, voyons comment Acte 2, versets 36 à 38, résume la signification de ces 3 premières fêtes bibliques. L'apôtre Pierre prêcha un message très puissant pendant la première Pentecôte suivant la résurrection. Il fit prendre conscience aux Juifs qui écoutaient son message qu'ils étaient coupables d'avoir tué le Messie tant attendu. Ils furent vivement touchés et ils demandèrent « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Notez comment, dans la conclusion du puissant sermon de Pierre, nous retrouvons la Pâque, la reconnaissance du Christ en tant que véritable agneau qui versa son sang pour nous, les pains sans levain, notre réaction en nous repentant et en étant baptisés, et la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit pour écrire la loi de Dieu dans l'esprit et le cœur de ses prémices. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a 7 fêtes divines annuelles, présentées à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les 4 prochaines fêtes doivent encore être accomplies. Elles révèlent des événements spectaculaires qui auront lieu dans un avenir proche. J'expliquerai cela dans la dernière émission de cette série. Entre-temps, assurez-vous de demander votre exemplaire gratuit de notre brochure, La restauration du christianisme originel. N'attendez pas, faites-le avant d'oublier. Retrouvez-nous chaque semaine. Richard Hems, Wallace Smith, notre présentateur occasionnel Rod McNair et moi vous présentons la bonne nouvelle du monde de demain. D'ici là, que la paix et la vérité du Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ soient avec vous. Pour recevoir les publications proposées dans cette émission ou pour revoir ce programme à votre convenance, visitez mondedemain.org. Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitter. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.